Alors pour ce premier culte finalement de notre année, j'allais dire scolaire ou liturgique, je vous propose de suivre la prédication que Jésus donne, la toute première prédication que Jésus donne dans l'Évangile selon Matthieu. C'est au chapitre 5 que nous avons cette courte prédication. À partir du verset 13. Jésus nous dit : C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi pourra-t-on le saler ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient ainsi votre Père qui est dans les cieux. Alors après cette prédication de Jésus qui nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, je vous propose d'entendre dans le livre des psaumes, le psaume 8, qui célèbre Dieu pour l'extraordinaire merveille qu'est l'être humain. Psaume de David. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu fondes une force en face de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi et au mal. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes mains, quand je regarde la lune et les étoiles que tu établis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et l'enfant de l'homme pour que tu le visites. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu le couronnes de gloire et de splendeur. Tu lui donnes domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à méditer sur ces paroles, ces textes, je vous propose de chanter au psaume 36 les trois premières strophes. Ô Seigneur, ta fidélité. C'est un psaume de louange, ce psaume 36 dans le psautier français, que je vous propose de chanter maintenant. Ô Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages que nous avons entendus, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un cœur pour aimer. Alors Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Pourtant, nous n'avons pas tellement l'impression d'être individuellement indispensable au progrès de l'univers, de l'humanité tout entière, ou à la beauté du monde. Eh bien, Jésus nous dit quand même, à chacun de nous, individuellement, vous êtes, ou bien toi, tu es la lumière du monde. Et Jésus le dit car il le pense. Et il le pense parce que c'est vrai, c'est la réalité. C'est même une réalité fondamentale pour nous. Il y a en chaque personne un génie propre, un point de vue personnel, et cela fait que personne d'autre ne pourrait apporter au monde ce que nous, personnellement, nous pouvons apporter. Alors je crois que c'est déjà une chose importante à noter pour nous-mêmes, et aussi pour le regard que nous avons des autres autour de nous. Mais il y a encore quelque chose de plus fondamental au-delà de nos qualités propres, qui sont les nôtres. C'est individuellement que nous sommes aimés, toujours individuellement. Et nous sommes irremplaçables pour ceux qui nous aiment vraiment. Nous sommes irremplaçables pour nos parents, bien entendu. Et quand il y a deux amoureux, Roméo est irremplaçable pour Juliette et Juliette est irremplaçable pour Roméo. Eh bien, dans la Bible, et particulièrement en Jésus-Christ, la personne individuelle a donc un prix infini parce que c'est individuellement que Dieu nous aime, nous regarde, espère nous aider à ce que nous puissions avancer. Ce qui fait et ce qui fera que nous aurons toujours de la valeur, c'est un amour qui s'attache à notre existence personnelle. Cela veut dire que nous n'avons pas à mériter notre droit à exister, à vivre et à être heureux. Cela veut dire qu'un handicapé, un malade, un criminel peuvent avoir des vies difficiles, des vies qui posent des problèmes, mais qu'aucun être humain ne peut perdre la dignité d'être humain. Cette dignité qui est à l'origine même de l'existence humaine, cette dignité qui est une pure grâce de Dieu. Comme un enfant est bien souvent aimé par ses parents avant même sa naissance, parfois même avant sa conception, et qu'il reste pour eux leur enfant bien-aimé, quoi qu'il arrive, Dieu nous considère et nous considérera toujours comme son enfant bien-aimé, et il nous donne ainsi d'être source d'une lumière pour le monde. Alors quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », Il ne nous fait pas la morale en nous disant « Recevez bien la lumière qui vient de Dieu et puis transmettez-la fidèlement autour de vous comme une télévision toute bête et chargée de recevoir des images de je ne sais où, je ne sais comment, et est chargée de rayonner fidèlement ce qu'on lui donne à transmettre. » Ce n'est pas comme cela. Ce que Jésus affirme, c'est que nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière, c'est une lumière personnelle, ce n'est pas simplement transmettre la lumière qui vient de Dieu. Jésus affirme, nous sommes la lumière du monde. Il reconnaît que la lumière que nous sommes peut être un peu cachée, mais même alors, elle existe, comme cachée sous quelque chose de sombre. Alors cette lumière dont il est question ici, c'est notre lumière personnelle, nous dit Jésus. Il ne dit pas que la lumière de Dieu brille à travers vos actions, à travers vos paroles, mais il dit que votre lumière brille sur ceux qui vous entourent, pour embellir la vie grâce au rayonnement de cette merveille incroyable que vous êtes, que nous sommes par certains côtés. Alors cela nous est arrivé à tous, je crois, de temps en temps, d'avoir été la lumière pour quelqu'un, rendant le sourire peut-être une fois, remettant sur pied, éclairant un peu l'horizon d'une personne désespérée, ouvrant une petite porte à la foi, donnant la force de pardonner, je ne sais pas quoi. À chaque fois, la vie a été embellie et Dieu a été terriblement fier de nous. Si Jésus commence sa toute première prédication avec ce message, c'est qu'il y a ici le point fondamental de son évangile. En tout être humain, il existe une lumière personnelle. Je crois que c'est vraiment la base de la théologie de Jésus, mais c'est aussi une façon de vivre tournée vers les autres, qu'il va vivre et qu'il nous propose. Quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est quelque chose qu'il va vivre et qui est, je crois, essentiel pour lui. Tout homme est donc, en un sens, une lumière indispensable au monde. Et pourtant, nous avons tous bien conscience que l'on pourrait dire également beaucoup de mal de l'homme. Le mal existe en chacun de nous, en chaque être humain. Le mal existe aussi dans la nature et nous le voyons avec ces ouragans, ces maladies qui font tant de dégâts parmi des peuples qui n'avaient, je dirais, vraiment pas besoin de connaître ces catastrophes en plus du reste. C'est pourquoi Jésus, avant de nous dire « Vous êtes la lumière du monde », nous dit d'abord « Vous êtes le sel de la terre ». Quel rapport ? Eh bien, c'est que le sel est connu pour donner de la saveur, mais aussi pour conserver les aliments. Alors, comment est-ce que ça marche? Le sel révèle et conserve le meilleur des aliments, et il se débrouille, là encore, je ne sais comment, pour éliminer les bactéries, les microbes, les moisissures qui feraient pourrir la nourriture. Et donc, c'est comme ça, grâce au sel, que le fromage est si bon et qu'il se conserve, par exemple. Donc être le sel de la terre, c'est être dans le monde comme le sel est dans la soupe, puis c'est mettre en valeur et conserver le meilleur de la réalité, et puis essayer d'éliminer tout ce qui ne va pas pour que ça ne vienne pas pourrir le reste. Et donc même s'il n'y a que 5% de bon au milieu de 95% de mauvais, être du sel, c'est retrouver cette bonne part, c'est la mettre en valeur pour qu'elle puisse dominer sur les mauvais pourcents. Donc oui, c'est utile d'avoir du sel en soi-même, comme nous le conseille Jésus. C'est une capacité à voir la part lumineuse qui est dans l'homme sans se laisser contaminer par tout ce qu'il peut y avoir de négatif et de mauvais en lui. Jésus nous dit que l'homme a cette capacité à être du sel. Et puisque nous sommes nés de la grâce de Dieu, nous avons en nous cette capacité à aimer à notre tour ainsi, car c'est bien d'amour qu'il s'agit à travers cette image du sel qui est utile pour rendre la vie belle, qui a un regard positif sur chaque personne sur le monde qui nous entoure, pour mettre sur le dessus, valoriser le meilleur. Jésus nous dit que nous sommes aujourd'hui le sel de la terre et la lumière du monde. L'Évangile nous ouvre les yeux sur ces dons que nous avons, des dons extraordinaires. Il le dit parce que c'est la réalité, mais aussi en espérant que cela nous donnera envie d'agir un peu comme sel et comme lumière autour de nous. Jésus ne nous oblige pas à saler et à briller, mais il dit que ce serait vraiment, vraiment dommage pour le monde si nous ne le faisons pas, car ce que nous avions apporté, à apporter, personne ne pourra l'apporter à notre place. Dieu ne nous aimera pas moins si nous ne le faisons pas, mais c'est un formidable gâchis quand le sel que nous sommes perd sa saveur ou quand cette lumière que nous sommes ne brille pour personne, laissant le monde souffrir d'une obscurité que rien ne pourra remplacer que nous-mêmes. Dans ces paroles de Jésus, il y a donc un appel à se réveiller un peu. Alors c'est vrai que nous sommes souvent comme de petits bébés qui ne savent pas encore très bien voir clair ni se servir de leurs mains. Et donc il n'y a pas de honte à demander à Dieu de nous aider à progresser. Et effectivement, heureusement, dans cette petite prédication de Jésus, il y a aussi une proposition de service de la part de Dieu pour nous aider à faire que notre lumière personnelle puisse briller un peu plus autour de nous. Pour nous expliquer ce que Dieu nous propose de faire pour nous aider dans ce domaine, Jésus utilise deux images. D'abord, être comme une ville sur une montagne. Dans la Bible, la montagne, ça évoque la recherche de Dieu par la louange. Parce que, bon, une montagne, un peu symboliquement, on est plus près du ciel, même si on sait que le ciel, il est toujours au ras du sol, mais c'est un peu une image. Donc, quand on est sur une montagne, on est symboliquement un peu plus proche de Dieu, donc ça évoque la prière, la louange. Eh bien, chacun est comme une ville faite de multiples demeures. Chacun est un être complexe fait de 100 dimensions qui composent un ensemble. Nous sommes un corps qui bouge, nous sommes un cœur qui aime, nous sommes une intelligence qui réfléchit, nous sommes une personne qui travaille et puis une personne qui aime aussi se réjouir ou jouer de la musique. Nous sommes ainsi comme une ville faite de nombreux lieux de vie. Eh bien, Jésus nous dit que c'est une bonne idée de construire cette ville que nous sommes en hauteur. Et cela, c'est possible grâce à l'aide de Dieu. Jésus ne nous demande pas de prier toute la journée ou de lire la Bible sans arrêt. Au contraire, notre lumière est utile dans le monde aussi à travers tout ce qui constitue la richesse de notre vie. Mais toutes les dimensions de notre existence gagnent à être ainsi bâties sur la montagne de la recherche de Dieu, la montagne de la foi. La foi, ce n'est donc pas quelque chose qui nous enferme ou qui nous limite, qui nous empêche de vivre. Au contraire, la foi, c'est quelque chose qui nous élève, qui embellit toutes les dimensions de notre existence. Alors cette histoire de ville sur la montagne, elle nous parle des services que Dieu veut nous rendre et qu'il va nous rendre si nous le voulons. Une ville sur une montagne, c'est une ville qui est plus sûre parce que du sommet de la montagne, eh bien on peut voir très loin un peu les chemins, où mènent les chemins, peut-être un ennemi arrive par quelque part. Et donc, quand on est comme ça bâti, quand on a bâti son existence en hauteur, eh bien, cela permet de voir plus clair dans sa vie et de mieux savoir comment nous décider personnellement, quel chemin nous allons pouvoir emprunter. Et puis une ville sur une montagne, c'est aussi une ville que les gens vont voir de très loin. Et donc par la foi, Dieu nous donne ainsi de mieux rayonner autour de nous. Et cette merveille que nous sommes, si elle est construite en hauteur, eh bien, elle fera beaucoup plus de bien encore autour d'elle. Et cette merveille que nous sommes, elle sera plus utile et elle va rayonner sur plus de monde, et cela, c'est quelque chose qui est un grand service. Et en venant ici ce matin, c'est cela que nous sommes venus chercher, l'aide de Dieu pour bâtir notre existence en hauteur, mais nous n'allons pas passer la semaine ici, c'est quelque chose qui nous permet de bâtir notre semaine un peu plus en hauteur et ainsi voir plus clair et mieux rayonner. La deuxième image que nous propose Jésus, c'est d'être une lampe sur un chandelier. Il compare notre être profond à une lampe qu'il nous propose d'élever ainsi un peu pour qu'elle brille mieux sur ceux qui sont nos plus proches. Jésus ne nous dit pas d'élever notre lampe sur un chandelier quelconque, mais il dit que nous pouvons la poser sur le chandelier. Alors dans ce milieu juif auquel s'adresse Jésus, le chandelier, ça évoque bien sûr la menorah qui était au centre du temple de Jérusalem, cette menorah qui évoque la présence de Dieu au milieu de son peuple et au plus profond du cœur de l'homme. Et donc cette image, deuxième image de la lampe sur le chandelier, elle rejoint la première, Dieu est là au plus profond de nous-mêmes et il s'offre pour nous soutenir, pour nous élever, afin de mettre en valeur notre propre génie pour que nous puissions mieux créer du bonheur et de la vie autour de nous. Alors c'est assez incroyable dans cette image que celui qui est en train de poursuivre l'œuvre de la création de l'univers à des échelles inimaginables, que ce Dieu créateur des galaxies, des trous noirs et de tout ce qui existe de bon, s'offre ainsi à nous des petites fourmis pour être personnellement comme un simple support pour nous élever un peu plus haut afin que notre lumière brille un peu mieux. C'est incroyable ce Dieu qui s'offre ainsi à nous comme un serviteur, comme un simple chandelier, mais c'est la réalité. Et Jésus ne se contente pas de le dire comme une belle image, mais cela, il va le vivre à travers sa propre existence. Quand de simple charpentier qui menait sa petite vie tranquille, il va devenir d'une façon décisive la lumière du monde pour l'humanité tout entière et pour nous, même 2000 ans après. Jésus nous dit que malheureusement, quelque chose peut aussi empêcher notre lumière de briller. Cela n'éteint pas notre lampe, nous dit Jésus, mais il y a simplement quelque chose qui peut venir cacher notre lumière, et il nous dit que c'est un boisseau. Alors beaucoup d'entre nous ne savent pas ce que c'est qu'un boisseau et n'en ont jamais vu. Un boisseau, c'est une sorte de pot, souvent en bois, qui sert à mesurer le volume des grains de blé, par exemple, le volume d'un sac de blé. Eh bien, ce qui peut cacher notre lumière personnelle, nous dit Jésus, c'est donc le jugement que l'on peut porter sur la personne humaine, comme si on essayait de mesurer la lumière personnelle qu'est chacun. On peut mesurer la taille de quelqu'un, on peut mesurer la force de quelqu'un, on peut même peut-être, paraît-il, mesurer son intelligence ou sa culture, mais il y a une chose que l'on ne peut pas mesurer, que l'on ne doit pas juger, c'est sa dignité, sa valeur en soi. Parce que pour Dieu, chaque être humain a, de toute façon, un prix infini, quelle que soit sa grandeur du point de vue physique, du point de vue spirituel, du point de vue artistique, social, intellectuel, moral. Et donc, il n'est pas bon de chercher à comparer la dignité de telle et telle personne. Il n'est pas bon de chercher à peser nos lumières personnelles, ni la nôtre, ni celle de notre prochain. Mais nous pouvons, comme Dieu, reconnaître chacune de ces lumières comme irremplaçable, la valoriser, l'élever et nous en réjouir, et puis remercier Dieu pour cette incroyable merveille que nous sommes, chacun de nous. À chacun de vous, merci d'être là, ici, ce matin. Merci pour cette lumière dont vous rayonnez. Vraiment, vous êtes, peut-être ne le savez-vous pas, une source de bénédiction. Et vous nous donnez envie, comme le dit Jésus, de rendre gloire à notre Père qui est dans les cieux. Éternel, que ton amour est élevé. Tu es la source de la vie. Par ta lumière, nous avons reconnu la lumière. Amen.